Chapitre 12. Au matin, Nietzsche se réveilla en pleine forme après avoir rêvé de courses folles dans la nature et de missions d'espionnage. Grâce aux informations collectées par Mra, elle avait désormais une idée précise du camp géant. Elle rejoignit Nathan au moment où il sortait de sa chambre, fringant dans une tunique blanche de sorcier ornée de broderies d'or au col et au poignet. Une fois évadé du palais des prophètes, il avait fait montre d'une nette préférence pour les chemises à jabot, les pantalons moulants, les bottes montantes et les larges ceintures. Après avoir été privé si longtemps de son pouvoir, il avait décidé de revenir à une tenue plus traditionnelle.
« Allons-nous résoudre le problème aujourd'hui, magicienne? Sauver prestement Ildakar histoire de reprendre notre route ?»«
Ce serait une idée judicieuse, en effet. » De sa vie, Nietzsche n'avait jamais reculé devant l'obstacle. Même sans le siège en cours, Ildakar souffrait de plaies à vif dont il convenait d'accélérer la guérison. Dans cette ville, on trouvait trop d'égoïstes qui prétendaient se remplir les poches sans jamais mettre la main à la pâte. Des parasites décidés à vivre du sang et de la sueur des autres. Cela dit, il y avait pléthore de citoyens de valeur, par exemple parmi les partisans de Masque Miroir. Si le chef rebelle n'était qu'une vermine, Rendel, l'esclave affranchi, se distinguait par son courage et son honnêteté. Dans le même ordre d'idées, il y avait sûrement de bons éléments dans les rangs des marchands et des nobles détenteurs du don. Bref, une partie de la population méritait d'être sauvée. Quand elle combattait pour l'ordre impérial, la magicienne avait toujours considéré les troupes de Jagang, des officiers jusqu'aux plus humbles fantassins, comme du matériel humain et rien de plus. Élevée dans l'idéologie toxique de l'ordre, elle ne voyait pas la part de bien présente en tout être humain. Au fil des ans, les drames et les déchirements avaient transformé son cœur en un bloc de glace noire. Quand ce bloc avait fondu, à cause de son amour pour Richard, elle était à son tour devenue du matériel humain, une arme dont le seigneur Ral avait besoin. Nietzsche n'avait jamais tiré de satisfaction de tout ça, sauf en éliminant Jagang, elle devait l'avouer. Mais récemment, sa détermination avait failli disparaître quand elle avait dû tuer une fillette, Chardon, afin d'obtenir le poison dont elle avait besoin pour sauver le monde. Rouge, la voyante, avait écrit cette prédiction dans le livre de vie de Nathan. Et la magicienne devra sauver le monde. L'autre prophétie de la voyante avait guidé Nathan, privé de son pouvoir, jusqu'à Kolader puis à Ildakar, où le cœur d'un sorcier avait fini par remplacer le sien. Au lieu de se laisser porter par le vent des prédictions, Nietzsche avait toujours pris seule ses décisions et choisi elle-même ses objectifs. Pourtant, elle respectait les oracles du livre de vie. Et la magicienne devra sauver le monde. Pour vaincre ici, à Ildakar, elle devrait retrouver son cœur de glace noire. Alors elle utiliserait son pouvoir et ses compétences pour défendre la ville et écraser le général Outros. Mais pour gagner, il faudrait mobiliser les ressources, les armes, la magie et les habitants de toute la cité, du plus puissant sorcier au plus humble citoyen. Avec un peu de chance, ces gens seraient prêts à payer le prix de leur liberté. En ville, le roulement des coups de poing ne s'interrompait jamais. Par bonheur, au bout de quelques jours, on s'y habituait. En revanche, quand ce vacarme cessa soudain, le silence eut quelque chose d'assourdissant. À côté de Nietzsche, Nathan faillit s'en emmêler les pinceaux de surprise.
« Par les esprits du bien ? »
s'écria-t-il.
« Je n'aime pas ça, »
souffla Nietzsche. Nathan eut un pâle sourire.
« Outros a peut-être décidé de se rendre. »
« Il n'est pas idiot à ce point, j'en ai peur. »
Inquiète, Nietzsche se dirigea vers le mur d'enceinte. Sur les créneaux, le haut capitaine Stuart aboyait des ordres dans son style inimitable. Alors qu'il exhortait les défenseurs à faire face à une attaque, les assaillants s'étaient retirés derrière les anciennes douves, ce qui ne parlait pas en faveur d'une charge immédiate. Stuart courut rejoindre Nathan et Nietzsche.
En réponse à un signal lancé depuis le centre du camp, les soldats ont cessé de frapper, puis ils ont reculé.
Se penchant entre deux merlons, Nietzsche scruta le pied de la muraille. À force de cogner, les hommes d'Outros avaient fissuré la pierre. Un résultat impressionnant. Heureusement, les sorciers avaient renforcé la structure qui ne risquait rien pour le moment. Sur le sol, la magicienne repéra de grosses pierres, des projectiles improvisés et des taches sombres là où de l'huile bouillante était tombée en pluie. Des centaines d'ennemis avaient péri à cet endroit, mais on avait emporté leurs corps. Dans la plaine, l'énorme armée se sépara en deux avec une parfaite coordination. Perché sur un cheval de guerre qui avançait lourdement, plus qu'un destrier, on eût dit une bête de labour, un officier en cuirasse renforcé de fer, un casque sur la tête, regardait fièrement droit devant lui. Sans dégainer l'épée incurvée qui battait son flanc, il s'immobilisa à quelques pas des lourdes portes de la ville. Nietzsche plissa les yeux pour mieux voir. Vétéran au visage buriné, ce guerrier rayonnait d'assurance et d'autorité. Alors que Stuart et ses hommes murmuraient entre eux, attendant qu'ils se décident à parler, il les dévisagea un long moment. Puis il leva un poing ganté de fer et cria
« Au nom du général Outros, loyal serviteur du puissant Croc de Fer, nous exigeons de parler à un représentant d'Ildakar. Ensemble, nous déterminerons le lot de souffrances que la ville devra endurer avant de se rendre. »
Les défenseurs se tournèrent tous vers Stuart, qui regarda Nietzsche et Nathan. Pour l'heure, aucun membre du Douma n'était présent sur le chemin de ronde. Sourcils froncés, Nathan prit les choses en main.
« Tu n'es pas le général Outros, donc, seulement un pauvre larbin. »
Le vétéran fit la grimace, mais il reprit vite son masque de pierre.
« Je suis Enoch, son second. Je m'exprime en son nom. » Et il relaie la parole de l'empereur Kourgan. Pour que votre émissaire ne craigne pas un piège, nous avons fait reculer nos hommes et nous garantissons sa sécurité sur notre honneur. Le général entend se montrer raisonnable si vous faites de même. »
Enoch fit volter son cheval et s'en retourna d'où il venait. Libérés de la tyrannie de Thora et Maxime, les membres du Douma étaient pris d'une sorte de vertige. Des siècles durant, sous la protection du linceul de l'éternité, la ville avait connu une assommante routine. Aujourd'hui, face à une crise majeure, la digne assemblée ne savait plus qui devait décider quoi et encore moins qui il fallait choisir pour parler au nom d'Ildakar. À la vérité, les candidats ne se bousculaient pas au portillon. Sous le regard impatient de Nietzsche et Nathan, Elsa, Damon, Quentin, Lani et Auron discutaillaient à l'infini. Dans cette cacophonie, le membre le plus récent du conseil se montrait le plus pragmatique.
« Nous devons parlementer avec Outros. C'est la seule façon d'obtenir des informations. »« Oui, il n'y a pas d'autre solution, » convint Damon. « Mais que ferons-nous si sa proposition est vraiment raisonnable ?»«
En tout cas, » dit Quentin, « on ne peut pas envoyer l'un ou plusieurs d'entre nous. Imaginez que ce soit quand même un piège. » « Si Outros nous retient en otage, la ville sera terriblement affaiblie. »«
Enoch nous a donné sa parole et celle d'Outros, » rappela Elsa. « Voilà des jours que les soldats martèlent nos murs, mais ce sont les premiers mots venant du général que nous entendons. N'est-il pas obligatoire d'en apprendre davantage ?»
Le menton appuyé sur un poing, Auron acquiesça.
« Ce sera du temps gagné, oui. » En attendant que nous ayons trouvé un moyen de vaincre ces gens ou d'évacuer la ville en toute sécurité.
Évacuer,
railla Nathan.
Au bas mot, Ildakar compte un 500 000 d'habitants. Tu veux qu'ils jouent les acrobates sur la falaise, puis qu'ils embarquent sur des navires fluviaux? C'est impossible.
Tant pis pour l'évacuation,
trancha Quentin.
Mais réfléchissons à d'autres solutions.
« Outros ne sait sans doute pas exactement ce qui lui est arrivé, »
intervint Nietzsche.
« À peine réveillé du sort de pétrification, il n'a peut-être pas conscience du temps qui s'est écoulé. »
Lani approuva du chef.
« Quand j'étais pétrifié, je ne sentais pas le passage du temps. Outros ignore peut-être que son empereur est mort depuis des siècles. »«
Ce siège n'a aucun sens, »
déclara Elsa.
« Nous devons le lui faire comprendre. Sera-t-il assez lucide pour ça ?»
« Sa position n'est pas enviable, »
souligna Quentin.
« Habitué à vivre en autarcie, la ville peut soutenir un siège indéfiniment. Les hommes d'Outros, en revanche, crèveront bientôt de faim. Un gros avantage pour nous. »
Auron eut un sourire glacial.
« Il faut envoyer notre meilleur orateur. Outros n'ayant plus de maître, il pourrait se rallier à Ildakar. »
Dans ce cas, » fit Elsa. « Ce sera à nous de nourrir ces hommes. S'ils nous rejoignent, comment ferons-nous face à tant de ventres vides ?»«
La théorie d'Auron était une boutade, »
dit Damon. Nathan ne cacha pas sa surprise.
Au contraire, c'est très sérieux. À coup sûr, ces hommes n'ont rien avalé depuis leur réveil. Il devrait y avoir des désordres, voire des désertions en masse. Or, la discipline ne faiblit pas. Comment est-ce possible quand des centaines de milliers d'hommes n'ont ni abri ni vivres ?
Lani parut soudain songeuse.
Depuis mon réveil, je n'ai eu ni faim ni soif.
Elle toucha sa peau encore dure.
Le sort n'est pas totalement dissipé. Ces soldats n'ont peut-être pas besoin de nourriture.
Si c'est exact et à condition que ça dure, le siège peut se prolonger jusqu'à la fin des temps.
Cette intervention de Nietzsche jeta un froid sur l'assemblée.
Si seulement nous pouvions rétablir le linceul,
marmonna Damon.
Je donnerais cher pour revenir au temps où Ildakar était en paix.
Ça n'a jamais été le cas,
souffla Nathan.
Mais vous n'en aviez pas conscience.
Nietzsche estima utile de remettre la conversation sur la bonne voie.
Quand Outros saura que Croc de Fer est mort, son empire en lambeaux, il comprendra que ce siège n'a aucun sens. Quelqu'un doit pouvoir lui ouvrir les yeux.
Qui ira le convaincre ? Demanda Quentin. Pour être franc, ne comptez pas sur moi. J'ai trop peur que ces soudards me coupent la tête et vous la renvoient par-dessus le mur d'enceinte.
Pourquoi ne pas désigner Thora ?
Proposa Damon.
Quel risque donc sa peau ? Elle prétend vouloir le bien d'Ildakar et si elle meurt, ce ne sera pas une grande perte.
Les réactions furent plus que mitigées.
Comment lui faire confiance ?
Lança Lani avec une agressivité surprenante.
C'est une vipère !
Déçu par tous ces gens, Nietzsche durcit le ton.
Le Douma, c'est vous ! N'y en a-t-il pas un dans le lot assez courageux pour affronter Outros et défendre Ildakar ? Aucun de vous n'ira parler à votre pire ennemi ?
Plongée dans ses pensées, elle s'assoupira. Damon et Quentin regardèrent Auron, plein d'espoir, mais il baissa les yeux sur ses ongles qu'il curait avec la pointe d'un petit couteau.
« J'en ai assez de ces sornettes !»
s'écria Nietzsche.
« Par le passé, j'ai vu de l'intérieur ce qu'une armée de soudards peut faire. Nous n'avons pas le choix, et ici, nous n'arriverons à rien. Sorcier, m'accompagneras-tu ? Ensemble, nous parlerons aussi au nom du Seigneur Ral. »«
Je suis ton homme, magicienne. » Au palais des prophètes, j'ai étudié l'histoire pendant des siècles. Rencontrer le général Outros, cette légende, sera un honneur.